conférences. Société, science, environnement, théologie, art ou histoire, des sujets de discussion sur Radio Alliance Plus.
Vous allez écouter une conférence de Dominique Gourd intitulée Paul Ricoeur, théologien.
Merci à chacun et à chacune de venir et d'accueillir Dominique Gourd pour son livre « L'éclaireur, penser pour agir » avec Paul Ricoeur. Alors, il fait une tournée en région CLR. C'est une tournée qui a été organisée avec le CEP, avec l'Église protestante unie, avec Labor et Fides, qui nous a beaucoup aidés. Et puis, avant Nîmes, nous étions à Sète, nous étions à Clermont-l'Hérault. Après Nîmes, nous serons à Montpellier. Et puis ensuite, nous irons jusqu'à Narbonne et Carcassonne, avant le retour de Dominique sur Paris. Voilà, merci vraiment, un grand merci à Évangile et Liberté de nous accueillir ici dans cette maison du protestantisme. Ça a permis à Dominique de faire connaissance avec Nîmes.
Et voilà.
Merci.
Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir dans cette maison du protestantisme pour parler de ce livre sur lequel j'ai consacré pratiquement 5 ans de recherche, avec un but de mettre Paul Ricoeur à la portée du plus grand nombre, parce que je me suis aperçu que souvent il est un peu confiné à des spécialistes de la philosophie ou des spécialistes de l'exégèse biblique, alors qu'il a quand même plusieurs dimensions. On connaît beaucoup ses travaux philosophiques. C'est un philosophe de renommée internationale. Il est peut-être même plus connu aux États-Unis qu'en France. Il est considéré comme un des plus grands philosophes quand même du XXe siècle. Mais il a aussi d'autres aspects qui sont peut-être moins connus. Notamment, il a beaucoup collaboré à des revues comme la revue Esprit. Il a beaucoup travaillé avec des professionnels de terrain, en but souvent à des questions éthiques, des problèmes éthiques difficiles. Il a travaillé avec des juristes, il a travaillé avec des médecins, des soignants. Il a aussi travaillé beaucoup avec des éducateurs pour les éclairer un peu sur la résolution, la prise de décision délicate dans des situations éthiques délicates, notamment sur les 20 dernières années de sa vie. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Antoine Garapon, qui est un juge pour enfants, qui a été nommé directeur par Michel Rocard de l'Institut des hautes études de la justice. Et Antoine Garapon a fait appel à Paul Ricoeur pour travailler avec lui, pour améliorer le fonctionnement de la justice. Et pour vous donner un exemple concret des travaux de Paul Ricoeur, je vais vous en donner deux avant d'aborder le thème que vous m'avez demandé d'aborder, à savoir Paul Ricoeur, le théologien, puisque la caractéristique de ma tournée, c'est qu'on m'a demandé des thèmes un peu différents que j'aborde tous dans mon livre, mais donc j'aborde Ricoeur sous des angles un peu différents. Donc deux exemples concrets de l'application des réflexions de Paul Ricoeur. C'est déjà avec Antoine Garapon, vous avez peut-être entendu parler du dispositif de justice restaurative qui met en confrontation des victimes et des agresseurs. C'est un dispositif qui est né des États-Unis et du Canada, mais qui se développe en France. Et Paul Ricoeur a beaucoup, beaucoup œuvré pour que ce dispositif se développe. Il est encore un peu minoritaire, mais il a été un petit peu popularisé par un film « Je verrai toujours vos visages » et par des reportages à la télévision. Et il y a des pratiques qui permettent à des victimes de peut-être de voir, entendre, prendre en compte leur souffrance beaucoup plus que dans le dispositif judiciaire classique, et puis qui permettent aussi aux agresseurs de prendre conscience de l'impact du mal qu'ils ont fait à leurs victimes. Ça, c'est un exemple de travaux pratiques, si on peut dire, sur lesquels Ricoeur a beaucoup travaillé ces dernières années. Et puis, on ne sait pas toujours, mais Ricoeur a beaucoup contribué avec Michel Rocard, puisqu'il était ami avec Michel Rocard quand il était Premier ministre, à résoudre le problème de la Nouvelle-Calédonie, avec son éthique de compromis, hein, puisqu'ils ont réuni les deux communautés rivales, les Caldoches et les Kanaks, et ils ont réussi à trouver un compromis qui a quand même tenu plus de 30 ans, hein, qui a pacifié un petit peu la Nouvelle-Calédonie. Donc Paul Ricoeur a eu toujours un aspect de souci d'articuler la pensée et l'action, et cet aspect m'a beaucoup intéressé, parce que moi, si vous voulez, je suis philosophe de formation, mais pas philosophe professionnel. J'étais conseiller d'orientation dans l'éducation nationale, donc j'ai travaillé auprès de jeunes, auprès de familles. Donc j'avais un métier de terrain, et depuis que je suis en retraite, je suis adhérent à un certain nombre d'associations, notamment à caractère social, et je suis très sensible aussi à l'articulation entre la réflexion et l'action, et c'est pour ça peut-être que cet aspect-là de Ricoeur m'a beaucoup intéressé. Alors, si vous voulez, on pourra développer peut-être pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent moins la pensée de Ricoeur, peut-être d'autres aspects, mais je vais me focaliser maintenant peut-être sur le thème que vous m'avez demandé de développer, à savoir Paul Ricoeur, le théologien. Alors, Paul Ricoeur, qui a une œuvre philosophique importante, puisqu'il a écrit pas moins de 22 livres, et on a recensé de sa part plus de 750 articles. Alors j'ai oublié bien sûr de parler du Paul Ricoeur protestant, hein, mais ça je veux peut-être davantage développer cet aspect dans ma conférence. Paul Ricoeur, il a toujours eu le souci de dissocier sa démarche philosophique de l'approche théologique. Pour lui, il y avait une autonomie entre ces deux approches. Et la différence pour lui entre théologie et philosophie ne tient pas à ce que la théologie prendrait en compte un donné religieux que la philosophie ignorerait. Le donné religieux peut inspirer aussi certaines philosophies. On l'a vu, par exemple, il y a un certain nombre de philosophes qui se sont intéressés à la religion, pas forcément en étant croyants. Voilà. On connaît Emmanuel Kant, qui était un protestant, Thomas d'Aquin, qui était catholique, Augustin, qui a beaucoup inspiré, saint Augustin, qui a beaucoup inspiré le catholicisme, Bergson, qui a fait des études aussi sur l'impact de la religion un petit peu dans l'existence humaine. Donc, on a un certain nombre d'exemples, Kierkegaard, qui était un philosophe protestant, mais il y a un certain nombre de philosophes qui se sont intéressés aux données religieux comme un fait, comme un phénomène humain parmi d'autres phénomènes. Pas forcément à titre de philosophe croyant. Alors, la vraie différence, alors, là je vais partir d'un texte de la fin des années 50 qu'on trouve dans le recueil de textes Histoire et vérité de Ricoeur. La vraie différence un peu entre philosophie et théologie tient en ceci, c'est que le théologien reconnaît aux données religieuses une autorité au sens que le philosophe n'a pas à lui accorder. Je vais citer Paul Ricoeur dans le texte suivant. L'autorité, pas forcément autorité au sens de quelque chose qui vient d'en haut et qui est très contraignant, autorité au sens d'autorité morale, si on peut dire. L'autorité est un aspect fondamental de la révélation et de la vérité que le croyant y reconnaît. Et les événements de la révélation, et chez Ricoeur, bien sûr, la révélation biblique, il s'appuie essentiellement le donné biblique et le fondement de sa foi, les événements de la révélation sont capables de changer ma vie, là je cite Ricoeur dans le texte, ils sont également fondateurs d'une nouvelle existence communautaire. Donc, un impact sur la vie individuelle, un impact sur la vie communautaire. En ce sens, ils ont autorité sur ma vie et sur notre communauté. La parole de Dieu est autorité par son sens pour moi et pour nous. L'autorité est un phénomène fondamental de la vie religieuse. L'autorité au sens de référence fondatrice, si vous voulez. Pas au sens de hiérarchie très contraignante. Dieu veut quelque chose pour moi et pour nous. Et Ricoeur de terminer son texte en disant « L'enchaînement se présente ainsi, autorité du Verbe, c'est-à-dire autorité de la parole, le Verbe au sens de parole de Dieu, une parole reçue, intégrée comme fondatrice dans sa vie, autorité du Verbe, autorité du témoignage scripturaire, c'est-à-dire de tous les textes de la Bible qui rendent compte de cette intuition de la présence de Dieu et qui en rendent compte de manière différente, suivant que ce soit des textes, narratifs, prophétiques, hymniques. Il y a plusieurs types de textes dans la Bible. Donc, autorité du Verbe, autorité du témoignage scripturaire, autorité de la prédication fidèle, c'est-à-dire la prédication qui interprète un peu cette parole de Dieu que l'on trouve dans la Bible et qui essaye de l'actualiser, et autorité de la théologie. Donc, on voit que pour Ricoeur, la théologie vient vraiment à la fin. Et elle s'appuie sur l'interprétation des textes bibliques, c'est vraiment fondamental. Et là, on retrouve un geste protestant très important chez Ricoeur. Ricoeur qui, entre parenthèses, a été orphelin dès l'âge de 2 ans et qui a été élevé par des grands-parents protestants et qui a très, très tôt été amené à lire la Bible, comme il le disait, à lire les psaumes, à prier, à initier, si on peut dire, à la prière individuelle et communautaire. Alors ça, c'est ma première remarque, disons, une différence entre la théologie et la philosophie. La philosophie s'intéresse à la religion, mais sans y accorder plus d'importance qu'un autre phénomène humain, alors que la théologie va quand même s'appuyer sur la parole de Dieu telle qu'elle est consignée dans les textes bibliques, pour bien sûr les chrétiens, et cette parole qui va être interprétée et puis actualisée par la prédication. Première remarque. Deuxième remarque, Ricoeur s'est toujours dit agnostique sur le plan philosophique, en ce sens qu'il sépare croire et savoir. Ça, c'est très important. C'est très important. Il dit la foi, c'est pas de l'ordre d'un savoir, c'est pas de l'ordre d'une certitude. C'est très important. La confusion, les fondamentalismes, les excès religieux viennent du fait qu'on croit savoir et qu'on veuille imposer ce prétendu savoir aux autres. Ça, c'est très important. Il définit son œuvre comme une œuvre d'anthropologie philosophique qui s'attache à une meilleure compréhension de la condition humaine, une meilleure compréhension de l'agir humain en ses capacités d'intervention possibles pour rendre le monde plus habitable. En ce sens, donc, l'approche philosophique de Paul Ricoeur ne postule pas a priori l'existence de Dieu. D'ailleurs, Ricoeur reconnaissait que ses convictions n'induisent aucune preuve rationnelle, elles ne sont qu'une proposition de sens, une ouverture possible proposée à l'existence humaine, mais ne reposant sur aucune certitude. Ça, c'est important de bien poser la question, et je pense que c'était un souci essentiel de Ricoeur de bien poser les questions. Il disait bien poser les questions, c'est déjà avancer un peu dans les réponses. Troisième remarque préalable, Ricoeur a dit plusieurs fois qu'il voulait parler à tous les humanistes et s'est interdit d'enseigner autre chose que la philosophie dans son enseignement public. Ricoeur a été agrégé de philosophie, il avait 23 ans, donc il est né en 1913. Agrégé de 22 ans même, il est agrégé de philosophie en 1935, Donc, il a été un enseignant dans le public. Il a enseigné dans 3 lycées, dans 3 universités. Strasbourg, la Sorbonne à Paris et puis Nanterre, sans compter tous ces enseignements aux États-Unis et en Belgique.
Radio Alliance Plus, vous écoutez une conférence de Dominique Gour intitulée Paul Ricoeur, théologien.
Et il a toujours dit que son éthique, il a développé une vision éthique très intéressante, son éthique peut s'adresser à tout un chacun. Il précisait bien que dans les choix difficiles de la vie éthique, le chrétien ne se débrouille pas mieux que quiconque, et que le christianisme n'est qu'une des sources possibles de l'éthique. La préoccupation éthique commune à tous les citoyens, c'est comment arriver à une existence accomplie, il dit quelquefois une existence heureuse, comment arriver à une existence accomplie aux 3 niveaux de notre existence, au niveau individuel, au niveau interpersonnel et au niveau collectif. Cependant, donc, après ces remarques préalables qui me paraissaient importantes, Ricoeur s'est intéressé à des questions théologiques en répondant à des sollicitations venant d'institutions religieuses sous forme de conférences ou de colloques ou en répondant à des interviews. On trouve souvent dans ses écrits le souci de dissocier théologie biblique et théologie dogmatique avec une nette préférence pour la première, puisqu'il estimait que la théologie dogmatique risquait de figer le discours biblique. Voilà, ça c'est, donc c'était, si vous voulez, une introduction qui me paraissait intéressante et importante pour bien situer à quel niveau la théologie peut intervenir dans la pensée de Ricoeur. Par exemple, Ricoeur a enseigné donc dans des établissements publics. Il pratiquait une laïcité d'abstention, comme il le disait. Et même quand il a enseigné à l'Institut protestant de théologie de Paris, il a donné quand même près de 10 ans de cours, il l'a fait d'abord gratuitement, bénévolement, et il a dit « je n'ai jamais enseigné que la philosophie ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas allusion à des courants théologiques, mais si vous voulez, dans la pensée de Ricoeur, les sources de la philosophie, ce n'est pas seulement la philosophie, les grands philosophes avant lui et ses contemporains. Il disait que les sources de la philosophie, c'est aussi la non-philosophie, c'est-à-dire les sciences humaines, la littérature et la pensée religieuse. On peut aussi réfléchir à des problèmes humains en partant des grands textes religieux sans forcément pour cela le faire à titre de croyant. On peut le faire à titre de philosophe, c'est-à-dire réfléchissant sur la condition humaine sans présupposition de foi. Alors, quelques thématiques théologiques abordées par Ricoeur. Alors, j'avais un choix à faire. Je vous proposerai d'autres choix possibles à la fin que j'aurais pu vous développer. Je vous propose de développer assez rapidement 3 thématiques théologiques. Le problème du mal, sur lequel Ricoeur a beaucoup réfléchi, l'importance de la figure du Christ, et puis c'est 4 thèmes, le langage religieux de la Bible, et puis ce qu'il appelle l'amour gratuit ou la surabondance du don, emprunté notamment à sa méditation de l'apôtre Paul. Alors, le problème du mal. Ricoeur a beaucoup réfléchi sur le problème du mal, notamment à partir d'une expérience personnelle qui est celle de la mort de son père. Son père est mort à la guerre de 14, donc en 1915. Alors, Paul Ricoeur n'avait que 2 ans. Et à partir de 11-12 ans, Ricoeur a réfléchi un petit peu à cette expérience et il a pris conscience de l'injustice dont il a été victime à travers la mort de son père au cours d'une guerre meurtrière, injuste, qui a abouti au traité de Versailles, qui lui-même a été mal fagoté, qui a suscité le ressentiment du peuple allemand et qui indirectement est à l'origine aussi de la montée du nazisme et il a pris conscience de ce gâchis, de cette injustice, et ça a été pour lui le déclencheur de sa réflexion sur le mal. Alors, dans le texte « Le mal, un défi à la philosophie et à la théologie » qui a fait l'objet d'un tiré à part paru dans les mêmes éditions que celles que j'ai sollicitées, les éditions Laboret de Fides, Paul Ricoeur pose la question du mal à travers la question, à travers les questions de l'éthique, c'est-à-dire comment on peut se comporter par rapport au mal, du politique, dans la mesure où le politique, l'exercice du pouvoir qui peut aboutir malheureusement à l'autoritarisme est un des points d'ancrage qu'on peut constater comme un très très important du mal, et puis aussi sur le plan anthropologique. C'est-à-dire que son premier écrit philosophique, c'est « La philosophie de la volonté », il réfléchit un petit peu à la condition humaine et il se rend compte que quand on entreprend une action, on a une part de liberté, une part de capacité d'initiative, mais il y a des obstacles dont il faut tenir compte. Hein. Il y a le poids du corps, il y a les aléas de la vie, il y a l'inconscient, il y a un certain nombre d'obstacles, ce qu'il appelle la tension entre le volontaire et l'involontaire. Et donc, le mal, l'homme faillible, la faillibilité de notre condition, notre possibilité de faire le mal, c'est aussi un des points de départ de sa réflexion sur le mal. Donc il propose trois réponses possibles au mal comme mise à distance entre le mal et soi. La première réponse est de ne pas chercher de réponse à l'origine du mal, mais de combattre celui-ci par tous les moyens possibles. La deuxième, c'est l'expression de la plainte à la manière d'Elie Wiesel devant la pendaison d'un enfant par les nazis. Elle traduit le sentiment du scandale face au mal et restera pour Ricoeur l'exemple le plus frappant du cri humain de révolte devant le mal. Et la troisième réponse, c'est la croyance en Dieu malgré la présence du mal. Cette troisième réponse est bien développée dans le livre de Marion Muller-Collard, « L'autre Dieu », où elle médite une expérience personnelle qui est celle de l'accompagnement d'une maladie importante de son fils qui a failli le faire mourir, en lien avec l'expérience de Job. Donc la croyance de Dieu malgré la présence du mal, ce qui constitue chez Ricoeur l'acte de foi le plus authentique, le cœur même de sa conviction religieuse. Et à partir de cette troisième réponse possible devant le mal, troisième réponse de l'homme ou de la femme de foi, il va développer toute une réflexion sur l'espérance. Alors je vous signale pour les lecteurs ou les lectrices de Réforme que Antoine Nouis m'a demandé 6 articles à partir de mon livre. Le premier va paraître dans le numéro de cette semaine, et j'ai consacré mon dernier article, donc qui paraîtra au mois de mai, sur l'espérance. Donc pour Ricoeur, l'espérance est toujours en dépit d'eux, c'est-à-dire une façon de protester contre la désespérance. Et l'espérance est dialectique en ce qu'elle comporte le moment du désespoir. Et ça, Olivier Abel, en faisant allusion à plusieurs moments difficiles de la vie de Paul Ricoeur, disait « Il y a toujours chez Ricoeur quelqu'un qui revient à la vie de l'autre côté de la mort ». Il faisait notamment allusion aux 5 ans de captivité que Ricoeur venait de passer, puisqu'il a été prisonnier de guerre pendant 5 ans. Et donc il est revenu, alors qu'il a fait d'ailleurs connaissance au retour de cette captivité de sa troisième fille, puisque sa femme était enceinte de leur troisième fille quand il a été fait prisonnier. Il faut sentir la profondeur du deuil qui rend possible de formuler « Être ici est une splendeur », ce qu'a dit Ricoeur en revenant et en prenant conscience aussi finalement de une certaine chance qu'il avait eue de s'en être sorti, alors qu'il a côtoyé au retour de sa captivité en Pologne, il a côtoyé rescapé des camps de la mort. Le sens de l'espérance, c'est ici la conviction que le monde n'est pas fini, que l'état du monde n'est pas figé, mais qu'on peut le modifier. Donc voilà quelques réflexions un peu théologiques, si on peut dire, autour du mal de Ricoeur. Deuxième axe de réflexion, l'importance de la figure du Christ dans la théologie, dans les réflexions théologiques de Ricoeur. À la question « qu'est-ce qu'être témoin de l'Évangile ?», Paul Ricoeur se réfère d'emblée à la figure de Jésus-Christ. Il répond « c'est d'abord le choix d'un modèle de vie ». Et il ajoute, à la suite d'Emmanuel Kant, que pour lui, ce modèle est celui de l'homme parfait, agréable à Dieu et qui donne sa vie pour les autres. C'est le modèle de la figure de Jésus en croix. Et Ricoeur admet qu'on puisse ne considérer Jésus-Christ que comme un grand sage de l'humanité, à la manière de Socrate par exemple. Mais à ses yeux, ce qui différencie Jésus de Socrate, c'est que l'Église a lu son histoire comme l'histoire de Dieu lui-même et d'un Dieu qui est le contraire de la toute-puissance, puisque à travers Jésus, Dieu s'est abaissé. Alors, dans l'attachement de Paul Ricoeur à la figure du Christ, il est moins sensible à l'idée de sacrifice qu'à l'idée de service. Pour lui, Ricoeur, c'est vraiment c'est le modèle de celui qui a vécu le service des autres jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et il voit à la suite de la communauté chrétienne croyante le symbole de l'abaissement de Jésus, représenté par sa mort sur la croix, comme le signe que nous ne sommes pas à l'origine du sens, ni de la fondation dernière de notre propre histoire. Et il assigne à la communauté de croyants, qui a été pour lui incarnée par son appartenance à une paroisse géographique, il était paroissien à la paroisse de Robinson en région parisienne, Paul Ricoeur, donc il assigne à la communauté de croyants la fonction d'aide à l'interprétation et à l'actualisation du message de Jésus-Christ, compte tenu du contexte historique toujours changeant. Et pour lui, cette appartenance paroissiale n'était pas un repli sur un entre-soi confortable, mais un lieu essentiel pour vivifier sa foi avec d'autres croyants.
Radio Alliance Plus. Vous écoutez une conférence de Dominique Gour intitulée « Paul Ricoeur, théologien ».
Pour Ricoeur, la spécificité du langage biblique, c'est d'être un langage poétique, c'est-à-dire qu'il ouvre à des modalités nouvelles d'habiter le monde, de transformer sa propre vie et celle de la communauté. Donc je répète un peu cette spécificité du langage poétique que Ricoeur associe au langage biblique. C'est un langage qui ouvre à des modalités nouvelles d'habiter le monde, de transformer sa propre vie et celle de sa communauté. Je cite Ricoeur dans le texte, « Le discours poétique se réfère à nos modèles multiples d'appartenir au monde. Mais le langage poétique biblique, s'il appartient au genre poétique, est un langage religieux, car son référent ultime est Dieu. Ce langage veut nous introduire dans d'autres modalités d'être au monde, que le Nouveau Testament va résumer sous le terme de royaume de Dieu. Ricoeur relève par exemple, pour illustrer un peu cette caractéristique de ce qu'il appelle le langage poétique de la Bible, relève par exemple que dans les évangiles, on trouve beaucoup d'expressions limites. Par exemple, qui veut sauver sa vie la perdra. De paradoxes, de paraboles, de proverbes, qui sont une manière indirecte de nommer Dieu. Et je le cite encore dans le texte, dans un texte très intéressant qu'on trouve dans le conflit des interprétations qui s'appelle « Nommer Dieu ». Dieu est désigné à la fois comme celui qui se communique sous des modalités diverses et comme celui qui se réserve. Celui qui se communique et celui qui se réserve. Et une autre citation de Ricoeur, il est aussi l'être que l'homme ne peut véritablement nommer, c'est-à-dire tenir à la merci de son langage. Et pour illustrer encore la caractéristique de ce langage poétique, indirect, symbolique, Ricoeur note que dans le genre littéraire des paraboles de l'Évangile, il y a un contraste entre le réalisme de l'histoire et l'extravagance du dénouement qui suscite l'espèce de dérive par laquelle l'intrigue et sa pointe sont souvent déportées vers le tout autre. Cette citation, on peut l'illustrer par exemple par la parabole des ouvriers de la 11e heure. Il y a une parabole qui raconte une histoire rurale, banale, typique un peu de la communauté rurale dans laquelle vivait Jésus. Ces ouvriers qui sont embauchés à la journée, ces ouvriers agricoles. L'extravagance de la parabole, c'est ces ouvriers de la 11e heure qui finalement sont payés comme ceux qui ont travaillé de 11 heures. Ça, sur le plan de la justice sociale, ça peut nous choquer. Et c'est peut-être là justement qu'il y a un message à décoder, qu'il y a une autre logique peut-être à trouver. Et moi, cette parabole, si vous voulez, moi je suis bénévole dans une mission locale où j'aide des jeunes, c'est un peu dans la suite de mon métier, à réussir si possible à se préparer à leur entretien d'embauche. Et je me rends compte, en accompagnant des jeunes, que les inégalités sont souvent entre les individus à trouver, dans le sens que certains n'ont pas les codes, ne savent pas comment s'y prendre pour aborder un entretien d'embauche, parce qu'ils n'ont pas été dans des familles, une stimulation culturelle, un langage, on leur a décodé un peu le système. Il faut qu'ils aient des relais pour pouvoir aussi franchir des obstacles. Ces ouvriers de la 11e heure, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, ces ouvriers qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour se déclarer à leur exact, et puis qui peut-être, vu qu'on leur donne leur chance et qu'on les paye comme les autres, vont peut-être progresser un peu, enfin je ne sais pas, on peut l'interpréter comme ça, c'est une interprétation parmi d'autres, il y a d'autres possibilités. Donc il y a, si vous voulez, une histoire banale, et puis il y a quelque chose qui est censé un peu nous provoquer, nous choquer peut-être un petit peu, et peut-être que le message de Dieu se glisse à travers un petit peu cette pointe qui n'est pas forcément compréhensible avec notre logique humaine et de notre société où la performance et la loi du plus fort est quand même souvent ce qui prédomine. Donc, si vous voulez, pour terminer cette partie du langage religieux de la Bible, le langage poétique de la Bible avec ses diverses modalités, c'est aux yeux de Ricoeur le vecteur privilégié de la nomination de Dieu. Quatrième axe que je vous propose, qui était un axe beaucoup développé dans l'acte de foi de Paul Ricoeur, donc dans sa réflexion théologique, Ricoeur s'attache beaucoup à dégager les caractéristiques de l'amour divin en parlant d'un amour surabondant, qui est souvent caractérisé dans le Nouveau Testament par la notion de grâce. Et en se référant à un texte, le fameux texte de Paul, l'apôtre Paul, appelé l'hymne à l'amour, qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Il médite longuement ce texte dans un texte qui s'appelle « Amour et justice », qui a fait l'objet d'un tiré à part que j'ai beaucoup commenté dans mon livre. Dans ce texte, l'amour, qui traduit le terme grec « agapé », est présenté comme au-dessus de tout. Tout ce qui n'est pas l'amour, aux yeux de Paul, perd sa valeur. Par exemple, la prophétie, posséder des richesses matérielles, etc. L'amour est porteur de qualités altruistes qui supposent la gratuité, serviabilité, discrétion, humilité. Paul alterne entre le renoncement auquel l'amour invite, par exemple chercher son intérêt, recourir à la colère, et l'engagement auquel il appelle, tout espérer, croire et supporter tout. Et dans la fin du texte, Ricoeur note que l'amour suppose un mouvement de transcendance qui dépasse toute limite. L'amour ne passera pas, ne passera jamais pas, contrairement à toutes les œuvres humaines, prophéties, sciences, etc. Bref, selon Paul, selon l'apôtre Paul, et Ricoeur approuve tout à fait, l'amour surpasse toute autre valeur, transcendant même la foi et l'espérance. Et par ailleurs, Ricoeur note ce qu'il appelle une puissance de métaphorisation qui s'attache aux expressions de l'amour. Derrière l'appel pressant de l'amour, tel que l'amant peut l'exprimer, « aime-moi », il y a plusieurs affects associés, le plaisir, la réjouissance, la béatitude. Et Ricoeur se réfère à Max Scheler, qui est un philosophe allemand. Il note que l'amour crée, tandis que la haine détruit, et qu'il augmente la valeur de ce qu'il saisit. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation, si vous voulez, de quelques thèmes théologiques de Paul Ricoeur. Alors, j'aurais pu développer aussi d'autres thématiques. Je vais vous les citer. On peut très bien, si vous avez des questions, si on veut instaurer un petit débat, se référer aussi à ces thèmes possibles que je développe dans mon livre. Philosophie et convictions religieuses. La différence entre foi et religion, qu'on trouve par exemple dans ce livre qui porte une couverture très semblable à la mienne, Plaidoyer pour l'utopie ecclésiale, qui est un livre très très intéressant que je vous conseille, qui est en fait un vieux texte de Ricoeur de 1967 que Olivier Abel a ressorti et qu'il a édité. Et il y a une réflexion très intéressante, pourtant texte de 1967, concernant la fonction de l'Église, concernant la différence entre la foi et la religion. Et Ricoeur fait appel à deux notions très intéressantes qu'il emprunte notamment à l'exégète protestant Bultmann, la démystification, c'est-à-dire la critique externe de la religion, quand la religion, des dérives de certaines dérives possibles de la religion, ce que Ricoeur a appelé le maître de soupçon, et puis la démythologisation, c'est-à-dire la nécessité d'essayer de tenir compte que les textes sont écrits dans un certain contexte culturel, historique, et qu'il faut les transposer dans notre actualité, qu'il y avait une cosmologie, une représentation du monde qui n'est plus la nôtre. Et il faut un petit peu, dégripper un petit peu les textes pour retrouver un petit peu leur sens. Donc ça, c'est la différence entre foi et religion. Il y a aussi, parmi d'autres thèmes théologiques intéressants abordés par Ricoeur, on retrouve par exemple dans son livre « Penser la Bible ». « Penser la Bible », c'est un livre très intéressant où Ricoeur commente des textes très importants de la Bible, notamment un texte qui m'a beaucoup intéressé, c'est son commentaire de Genèse 2-3, qu'on appelle souvent rapidement le texte de la chute, l'interprétation de la création par Ricoeur, notamment sa critique de la notion de péché originel, son éthique de la responsabilité, donc on trouve ça dans Penser la vie. Autre thème théologique, j'en ai un peu parlé quand même aujourd'hui, la nomination de Dieu dans la Bible et la notion de révélation, qu'on retrouve aussi dans le texte Nommer Dieu, notamment dans le recueil de textes Lecture 3, la fonction de l'Église, abordée par Ricoeur notamment dans l'Utopie ecclésiale, et puis aussi, ça je l'aborde dans mon livre, les hypothèses interprétatives de la formation du texte biblique. Et il y a trois textes que moi j'aurais envie de vous conseiller si vous voulez un petit peu approfondir.
C'est La liberté selon l'espérance, un texte très intéressant, très important de Ricoeur, qu'on trouve dans Le conflit des interprétations. Le recueil de textes Histoire et vérité, qui date pourtant de la fin des années 50, mais où il y a des textes encore très actuels, où il y a des textes à teneur théologique. Et puis le texte Nommer Dieu, qu'on trouve aussi dans le conflit des interprétations, que j'ai en partie commenté. Voilà, j'en ai terminé pour ma conférence. Je suis ouvert à vos questions. Je vous remercie de votre attention.
Radio Alliance Plus. Vous avez écouté une conférence de Dominique Gour intitulée Paul Ricoeur, théologien.